Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour,
Marie-Grâce,
c'est moi. Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leur devoir.
Ressemblez à mes parents? Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Moulinex libère la femme. Libère la femme. Libère la femme.
Vous aviez 20 ans.
Bah, qui on va fréquenter? Les grands-mères?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion, et aujourd'hui nous allons chez Fabienne.
Ah ça, la pilule, c'était un bienfait de l'humanité. J'ose le dire au fort et dans toutes les langues.
Allez, on va se mettre sous la bande.
Oui, super.
On se sent mieux, ça va ?
Parfait, ça va.
La rencontre avec Fabienne a eu lieu au début de l'été, dans sa maison de la banlieue parisienne, bordée par un jardin fleuri. Fabienne avait dévalisé la boulangerie du coin, et Marion s'est régalée de ses pâtisseries. Installées sous la véranda, elles ont démarré une conversation sans tabou sur la vie de Fabienne. Une vie dans laquelle l'Espagne et les hommes occupent une place à part.
Je suis née à Melun, ici à côté là, en 49. Mon père était prof, il avait été nommé là. Après-guerre, je suis née dans une salle de classe où ils avaient été réfugiés après-guerre, il n'y avait pas de logement. J'ai une moitié basque, une moitié alsacienne. Les deux sont costauds, de ce point de vue-là en tout cas. Alors du côté de ma mère, c'était des filles mères, de mère en fille, engrossées, jetées, violées. Dès qu'elles étaient engrossées, jetées. Et du côté de mon père, c'était des titrés. Ils avaient des quartiers de noblesse. Ma mère avait subi trop de violence parce qu'elle était prise pour l'estéo. Tu sais ce que c'est l'estéo? Ça avait été travail obligatoire, on envoyait les jeunes. Un jour, les Allemands sont arrivés en Alsace à la maison. Ils ont dit, toi, tu viens. Elle m'a dit, elle m'a toujours dit, j'ai eu le temps de poser la fourchette, c'est tout. Et elle a fait 4 ans d'estéo. Et je pense que là, il est arrivé le pire même. Elle n'a jamais dit bien que j'ai posé la question. Même pour moi, c'est encore dur. T'imagines un peu? Là, je te parle d'il y a plus de 70 ans. Puisque j'ai 71 ans là. Bon, enfin, je cherche en Allemagne si j'avais pas des frères, des sœurs, tout ça.
Parce qu'elle avait quel âge quand elle...
18 ans, à la vie. Une gosse, quoi. Donc après, elle a quitté l'Alsace. Elle est allée à Toulouse, elle a fait ses études allemandes. Et elle est devenue surveillante générale. Et on n'a jamais pu s'entendre, elle n'a jamais pu aimer ses deux enfants. Elle n'a pas pu. Avec ce qu'elle avait subi, elle ne pouvait plus aimer. Elle était cassée, brisée.
Mais ils étaient amoureux, vos parents?
Ah oui, oui, oui. Mon père était très amoureux, ma mère aussi. Elle a réussi à se marier quand même. Mais mon autre grand-mère basque me disait, toi la fille de l'Allemande. Donc tu vois que c'était pas résolu, même dans la famille. Et quand ma mère s'est mariée, dans le village, ils ont dit, elle épouse un Français. Moi, mes parents m'ont donné à cette famille alsacienne quand j'ai eu 14 mois. Ça se donnait les enfants à l'époque. Mes tantes n'avaient pas d'enfants. Allez hop, on m'a donné là-bas. Ma mère ne pouvait pas me supporter. Avec ce qu'elle avait passé, elle ne pouvait pas supporter. Bon, elle a gardé mon frère, mais moi, elle n'a pas pu. Alors, j'ai été éduquée en Alsace. J'ai parlé de ma première langue alsacienne. Et à 4 ans, on m'a dit, tu as 4 ans, maintenant tu dois mériter ce que tu manges au travail. Au jardin, je faisais des petits boulots du jardin. Je m'occupais des poules, des lapins. Ben, on attendait toujours. On s'arrêtait pour mourir, c'était clair. Mon grand-père ne parlait pas un mot de français. Mais ma famille a changé 6 fois de nationalité là-bas. Donc, il ne parlait pas du tout le français. Mes arrière-grands-parents ne parlaient que le français, pas l'alsacien. On avait quand même des problèmes de communication.
Donc, c'est vos grands-parents ou vos oncles et tantes qui vous ont élevé?
C'est mon grand-père, surtout mon grand-père, et ma tante, la sœur aînée. Mon grand-père a eu 3 filles, et lui, il adorait ses filles, s'en foutait de ne pas avoir de mecs. Parce que chez nous, les mecs, c'était le mal total, c'était le mal absolu de l'homme, quoi.
Pourquoi?
Eh bien, à cause des violences, des morts, des viols, de tout ça. De la faim, de la pauvreté, de la misère, de tout ça. Donc, il valait mieux avoir des filles. Hein. Donc, il a eu 3 filles, il a été béni des dieux d'avoir 3 filles. Mais ils m'ont reprise vers l'âge de 7 ans, 8 ans à peu près. Bon, j'ai appris à lire et à écrire en Alsace avec les sœurs. On n'avait pas le droit de parler alsacien, mais on le faisait quand même.
Vous étiez à l'école, dans une école de bonne sœur?
De bonne sœur. À côté de la maison, il y avait l'école et l'église. On était dans une classe de l'église. Il n'y avait que moi. Et ma voisine d'en face, qui avait mon âge, avait été aussi abandonnée par sa mère. Et c'est sa grand-mère qui l'élevait. Et tous les soirs, je leur portais à manger, ils n'avaient rien à bouffer. Et mon grand-père était un homme adorable. Heureusement que lui a été l'homme de ma vie, finalement. Lui, il était sellier. Tu sais ce que c'est, sellier? Il faisait l'harnais de chevaux pour les champs ou pour l'armée. Il faisait le cuir des chevaux, quoi. Donc, il y avait toujours des chevaux à la maison. Et j'étais pendue aux chevaux tout le temps. Et j'adore mon grand-père, parce que lui m'aimait sincèrement, vraiment. Moi, j'étais ravie d'apprendre à lire. Dès que j'ai su lire, ça a été fini. Les livres m'ont sauvé la vie. Je ne m'arrêtais plus de lire.
Et pourquoi vos parents vous ont repris?
Je pense que je devais manquer un peu à mon père, quand même. Ma mère avait eu son fils, son deuxième enfant. Il y avait aussi... Il fallait quand même pas abandonner son enfant, ça se fait pas. Je crois que c'était dans l'ordre plus de l'ordre social que de l'ordre affectif, parce qu'après elle m'a abandonné tout le temps. C'est pour ça que j'ai été nomade. Bon, j'ai débarqué dans la vie de mes parents. J'avais un petit frère que je savais pas que j'avais un frère. Et lui savait pas qu'il y avait une grande sœur. Et je crois qu'il s'en remet toujours pas d'ailleurs. On n'a jamais réussi à s'entendre. Parce qu'il s'est retrouvé du jour au lendemain le petit frère, alors qu'il était le petit prince. Alors ma mère très vite a décidé que je vais foutre le camp de nouveau. Elle était très dure avec moi, très dure et maltraitante. Elle me faisait souffrir physiquement. Alors quand je la croisais dans l'appartement de fonction où on était logés, je la croisais, je faisais « Hi maman !» Alors évidemment ça crée l'ambiance. On apprend la méchanceté très jeune et la cruauté. Je faisais que lui renvoyer ce qu'elle me faisait, quoi. Elle pouvait pas, elle pouvait pas. Et je l'ai compris qu'il y a un an seulement. Les choses me sont apparues de façon évidente. J'ai compris ce qui lui est arrivé. Et pourquoi elle pouvait pas aimer, même ses gosses. Et pourquoi j'ai pas pu avoir d'enfants à cause de tout ça. J'ai même pas pu les vouloir. À cause de ce qu'elle a subi. Et à cause de ce que j'ai subi après. Moi, j'ai pas été violée, mais bon, la maltraitance, ça calme quand même. Je pouvais pas revivre à travers une enfance que j'avais vécue, psychologiquement. Impossible. Donc, je suis comme on me disait dans le midi, t'es breugne. C'était une stérile, quoi. C'était sympa, en occitan, ça se disait comme ça. T'es breugne. Mais quand même, mon père avait décidé que j'allais être une femme libre. À 8 ans, il m'a appris à conduire la 203 de la famille. Dès que j'ai su lire, j'ai passé mes nuits à lire. Et les livres, ça m'a sauvé la vie. Eh bien, elle m'a mis à l'école là-bas. J'ai appris le français très vite. Et j'étais très bonne élève. Après, mes parents me trouvaient con. Ma mère, surtout, elle me disait, mets un pois chiche dans la tête. Mais c'est bon, les pois chiches. Et après, ma mère a décidé que je devais partir. Ça faisait trop qu'elle me voyait. Donc, ils m'ont mis dans une famille espagnole à Burgos, là-bas en Castille. Mais que pour les vacances. Entre-temps, j'apprenais à l'école française. Mais c'était vacances tellement prolongées que j'ai eu le temps d'apprendre l'espagnol, de penser en espagnol et de rêver en espagnol. Ils ont commencé à l'âge de 9 ans, mon maître, en Espagne. Jusqu'à 19 ans, quoi. Mais que pour les vacances. Mais enfin, j'y passais pas que les grandes vacances. C'était un collègue de mon père qui avait 4 enfants et une fille de mon âge. Donc il fallait absolument que j'apprenne l'espagnol. L'allemand, l'alsacien, le français, ça suffisait pas. Donc ils m'ont collé en Castille, là-bas. Mon père a été nommé à Toulouse. Et ma mère aussi. Donc on était allé habiter Toulouse. Mais entre-temps, à 8 ans, comme il m'avait appris à conduire, il me faisait conduire jusqu'à Burgos. Lui s'assied à côté, moi je pilotais la voiture. Mais c'était Espagne franquiste encore. Donc des fois on arrêtait la voiture, les flics nous arrêtaient. Mais pourquoi pas, parce que j'étais une gosse de 8-9 ans qui conduisait, parce que j'étais une fille. Mais en fait, les filles ne sont pas autorisées à conduire. Il y avait un petit grain de fantaisie, comme dit Bobby Lapointe.
Et ton père était plus tendre avec toi que ta mère ?
Oui, mon père, il m'aimait sincèrement. Il voulait que je travaille, que je fasse des études et que je sois indépendante. Mais en Espagne, j'ai reçu une éducation franquiste espagnole après l'Alsace. C'est-à-dire, dans l'appartement où on était en Espagne, il y avait une bibliothèque. Le bureau du père faisait bibliothèque en même temps. Et nous, les filles, on n'avait pas le droit d'y entrer. Chaque fois qu'il sortait, il fermait la clé pour qu'on n'y entre pas. L'idée ne lui venait pas qu'on pouvait tourner la clé. Du moins que c'était interdit, on n'y allait pas. Mais moi, j'y allais. Mais alors, les femmes sous le franquisme, c'est quelque chose. Conchita avait déjà 4 gosses. C'est ma mère espagnole, Conchita, je l'adorais. Elle était adorable, une basque aussi. Belle, gentille, sympa. Et je la faisais toujours rire parce que je ne posais pas les bonnes questions. Il fallait aller à la messe sans arrêt. À Pâques, tous les jours, on se tapait la grand-messe de 10 heures. Et on devait rentrer et sortir 3 fois de l'église pour se purifier, nous, les femmes. Parce qu'on était impurs en entrant, il fallait rentrer et sortir 3 fois. On demandait Dieu de nous purifier pour avoir le droit d'entrer à la messe.
Pourquoi les femmes étaient impures ?
Et parce qu'on était des femelles. L'évêque qui faisait la grand-messe tous les jours nous disait : vous, les femmes, vous êtes la tentation de la chair et vous êtes impures, vous êtes le mal. On devait porter des voiles noirs. Du coup, je disais, moi, je ne porte pas le voile noir, je ne veux pas. Elle m'avait trouvé un napperon dans le grenier que j'avais sous la tête. J'ai avais un napperon blanc. Je m'en foutais, il était blanc et pas noir. On devait s'habiller de noir, toujours en deuil, quoi. Et Franco passait des fois dans la rue. Et alors, le dictateur, putain, ce type. C'est une horreur vivante, ce type. Et quand il passait, la police faisait sortir les gens des maisons pour qu'on aille le saluer sur son passage, pour l'acclamer, le généralissimo. Alors on allait l'acclamer, c'est-à-dire que nous, les filles, on devait baisser les yeux, on n'avait pas le droit de le regarder, c'était déshonorant pour lui, et les garçons devaient faire le salut fasciste. On avait le droit de lire que des bandes dessinées, les filles et moi, que les bandes dessinées qui nous préparaient au mariage. C'était archi con et archi nul, et ne mettait même pas de beaux dessins. À 6 heures tous les soirs, on devait se promener sur une promenade pour se faire draguer et attirer les hommes. On apprenait ça, quoi, la drague. Il fallait se promener, aguicher les mecs, c'est-à-dire passer, ça suffisait. Moi, j'étais blonde avec des mélanges cheveux, ça allait.
Et alors, ça a marché ?
J'ai pas épousé un Espagnol, j'ai épousé un parigolo. Après le soir, ils venaient avec la guitare, les étudiants jouaient sous la fenêtre. Et chacun avait sur un ruban le nom de ses chéris, quoi. Alors, quand tu t'en disais, lequel te plaît ? Mais aucun, franchement. Regarde, ils ont tous l'air cons. Non, j'ai même pas flirté avec aucun. Elle est pour moi, si tu veux. Ma mère a été ma mère, mais elle n'a pas été une maman. J'ai eu une mère, mais pas une maman. Conchita, c'était une maman pour moi. Elle était brave. On était 5, mais elle s'en foutait d'en avoir une de plus dans la foulée. En plus, on lui disait, on voit que c'est ta fille, elle est blonde comme toi. Les Basques sont blondes, ça allait.
Fabienne est une enfant nomade, ballottée au gré des envies de sa famille. entre une enfance à la dure en Alsace, une mère qui la rejette et cette nouvelle famille espagnole à adopter, la jeune Fabienne fait preuve de trésor d'adaptation. Une qualité qui se confirme au cours de la suite de ses aventures.
Une fois, ben je me confesse puisque je parle espagnol. Je me la confesse et le curé me dit, c'était très pervers. Tu te regardes ? Et oui, parce que j'ai passé la salle de bain tout de suite. Tu te touches ? Et oui, et j'ai pensé que je me faisais la toilette tous les matins. Il m'a dit, tu ne dois pas ni te regarder ni te toucher. Se regarder, c'est-à-dire se regarder le sexe comme notre pubis, quoi. Comme on était faite, il ne fallait pas regarder. Et se toucher, c'était la masturbation. Il ne fallait pas.
Mais parce que du coup, tu n'as reçu aucune éducation sexuelle.
Ah non. Non. Mais il y avait, chez nous en Alsace, il y avait la peur du viol. Je devais porter 3 culottes pour ne pas me faire violer par les soldats allemands. Et alors, en flanelle rose, je ne te dis pas. Je devais porter 3 culottes superposées. Elle les portait aussi. Pourtant, ma tante était très frustrée. Elle était fiancée une fois, quand même. Elle était belle fille, mon Dieu. Et là-bas, quand les fiancés étaient conclus, le fiancé apportait ses poules dans notre poulailler. Donc, un soir, on a vu arriver le fiancé qui était d'Italie, immigré italien. Il a mené ses poules dans la brouette. Il a mis ses poules dans le poulailler. Et là, il a eu l'audace de vouloir embrasser sa fiancée. Il s'est pris une baffe et c'était fini. Il est reparti avec ses poules de suite. Et ça a été terminé. Elle n'a plus jamais eu d'homme de sa vie. Et elle me disait, ce qui était très dur pour moi, tu vois, il faut toujours une vieille fille. Dans une famille, tu seras la prochaine. J'ai dit, ne compte pas sur moi. Moi, j'ai envie d'avoir un mari et des enfants. Elle dit, mais il faut une vieille fille, tu seras la prochaine. Moi, j'étais cette génération, tu seras la prochaine génération. C'était rude quand même. Une fois, j'ai dit à ma mère, comment on fait pour avoir des enfants? Elle m'a dit, c'est rien. L'homme met son sexe dans ton sexe, et voilà, tu fais un enfant. C'est tout, ça s'arrête là. Ma mère était nommée Lannemezan. C'était la campagne pour la France, mais profonde. Et les femmes étaient des bêtes de sang, quoi. C'est-à-dire que il n'y avait pas de tabou. Il n'y avait pas de tabou pour les hommes. L'homme avait le droit de consommer la première femme qui passe. Fut-elle sa fille. Donc elle m'expliquait ça comme ça. Et en me précisant, mais tu n'as aucun plaisir de toute façon. Tu n'as aucun plaisir. Les curés, quand ils nous disaient, vous ne devez pas avoir de plaisir quand vous faites un enfant. Parce que ce qui était précisé, c'était que l'enfant du plaisir était lui-même glauque, quoi. Donc il ne fallait pas avoir de plaisir en faisant un enfant. Et une fois qu'on a vu l'enfant, on ne devait même plus avoir de relations sexuelles. Et alors, comment il va faire le père? Eh bien, il va haïr de toute façon. Voilà comment j'ai appris la sexualité, moi. C'est-à-dire que c'était lié à la grossesse ou rien, quoi. Le plaisir entre l'homme et la femme est péché. Il n'y avait que cette notion-là qui intervenait. Dans la société civile, aussi peu qu'au catéchisme. Vu le nombre d'enfants que j'ai eu, j'étais bien partie. Même pas le droit de porter le pantalon au lycée à l'époque. On n'y a eu droit qu'après mai 68. Et ma mère était la première à mettre le pantalon et à dire merde à tout le monde. Et comme ma tante avait décidé que je devais être vieille fille, elle m'habillait comme une vieille fille. J'avais un tablier qui m'arrivait à m'immoler. Un tablier blouse, tu vois. Des chaussures assorties, moins sexy que ça, tu meurs, quoi. Je devais dormir en soutien-gorge et en culotte pour pas me toucher. Les bras par-dessus les draps et les couvertures. Pas sous, pas dans le lit. Même l'hiver. Et on n'avait pas le chauffage dans la chambre.
Tu savais que c'était possible?
Il y avait l'idée que... Mais je ne l'ai pas fait, puisqu'on me l'avait interdit, je ne l'ai pas fait. Et en Espagne, en plus, en Espagne aussi, j'ai appris la cruauté. Mon Dieu. Le dimanche matin, on allait à la grand-messe à 10h. En sortant de la grand-messe, on avait le droit d'aller voir les prisonniers, parce qu'il y avait des prisonniers républicains encore à l'époque, qui avaient une espèce de trou dans la terre, et on était autorisé à les lapider, à leur jeter des pierres. parce qu'ils nous regardaient sous les jupes. Alors on leur jetait des pierres après la messe. Je ne savais pas que les filles avaient les règles, on ne me l'avait pas dit. Et une fois, une copine du lycée me dit, tu as tes règles ? Je dis, oui, j'ai mes règles dans le carton, j'ai tout ce qu'il faut pour le cours de dessin de calcul. Mais c'est pas de ça que je parle, mais t'imagines l'ignorance où on était. Alors elle m'a dit, mais non, c'est pas ça les règles, elle m'a expliqué. C'est une copine de classe, Josette, qui me l'a expliqué. Alors j'avais quoi, une quinzaine d'années. Eh bien, elles sont venues toutes seules dans ma culotte et ça s'est bien passé. Et ça a été très douloureux. Les premières années, c'était très douloureux. Je ne devais pas aller à l'école pendant 3 jours tellement j'avais mal. Au ventre et aux reins. Et alors, qu'est-ce qu'on entendait, évidemment ? Il lui faut un homme, ça la calmera ! Mais on entendait ça. Comme on menait les vaches au taureau. Alors, il faut m'amener au taureau, moi aussi. Mais c'était dur. Et je me rappelle que ma mère me disait, lave-toi bien, les femmes sont sales. Et pourquoi elles sont sales, les femmes ? Parce que c'est leur nature d'être sales. À 19 ans, je suis allée chez le gynéco la première fois. Avant d'avoir fait l'amour la première fois, je me rappelle. Ma mère m'a dit, il faut que je t'amène chez le gynéco. Je sens que ça va venir. C'est-à-dire que tu vas être dépucelée, quoi. Comme on disait les choses, t'imagines ? Ça va venir. Ça, c'était tout. Mais c'était toujours dans un registre de saleté, tu vois, et de danger de grossesse. Une de mes meilleures copines qui habitait en face était la fille de la pute du village. Mais je la trouvais belle, si belle. Et on était copines. Et elle m'a aussi dit des choses. Pourquoi ta mère ne travaille pas ? Mais elle travaille. Ah bon ? On ne la voit pas aller au bureau tout seul, mais elle travaille. J'ai compris longtemps après, évidemment. On apprenait comme ça, petit bout par petit bout. Mais rien n'était dit. Et puis quand je voyais bien les lapins, les poules, les coqs et les chevaux se reproduire, merde alors, je voyais bien les choses se faire quand même. Je ne veux pas de mari, je ne veux pas d'enfant. J'ai quitté l'Espagne comme ça. En fait, j'ai arrêté d'aller dans la famille parce qu'un jour, à 19 ans, je me suis trouvée dans la salle avec José Marie, le mari, donc le père espagnol, et j'ai vu qu'il me regardait autrement ce jour-là. J'ai rien dit, mais dans ma tête, j'ai pensé que c'est la dernière fois que je viens. Et je ne suis plus jamais revenue, je ne les ai plus vus.
Comment ça s'est passé, les premières rencontres avec les hommes, les premières histoires ?
Ça s'est passé au Pays Basque, mes parents, ma mère avait acheté une maison à Hendaye, là à la frontière. Et un soir, on se baladait. Et il y avait des jeunes qui faisaient les quêques à vélo avec ces petites motos qu'ils avaient à l'époque. Et il y avait un garçon qui était là. Un beau mec, je dois l'avouer. Et alors je dis à la volée, comme ça, je dis, mais ils sont quoi ces mecs, ils sont, qu'est-ce qu'ils s'imaginent ? Qu'on va craquer parce qu'il nous pétarde devant le nez comme ça. Et il me dit, je suis bien d'accord avec toi. Et on a commencé à parler, et voilà, il est devenu mon premier flirt. À s'embrasser sur la bouche. C'est tout, mais j'étais ravie. Ça m'a fait un bien fou. Et oui, ma mère me disait, tu seras institutrice, comme ça, tu pourras entrer à 5 heures pour t'occuper de tes enfants. Ça s'arrêtait là, le boulot, la sexualité, c'était tout. Que les gosses, quoi, la reproduction. Mais avec Fabrice, ça a été de bonheur. Ah, qu'est-ce que je me suis fait plaisir avec lui. Lui, il avait déjà eu des expériences. On a fait l'amour tous les deux, au bout d'un an de flirt. Oui, tu pourras le désir plus grand si tu veux. Et j'ai, malgré que c'est la première fois, j'ai eu un très bel orgasme. Mais entre-temps, j'avais parlé et je m'étais renseignée quand même.
Mais comment ?
J'étais à la fac. Une fois, j'avais croisé une copine qui m'avait dit « Alors, tu as franchi le grand pas ? Quel grand pas ? Quel grand pas ? Ben, t'as jamais fait l'amour ? Mais non. Tends-moi un homme, mais non. Parce que je bûchais. J'étais en lettre sup, cani pour cani. J'étais que dans les livres. Donc pour moi, l'amour, c'était en plus des livres, c'était impensable. Et à Toulouse, il y avait pourtant même, dans ma classe, il y avait des garçons sympas qui me draguaient. Non, non, rien de rien de rien. Et lui m'a dit, au bout de quelques jours, il m'a dit, j'ai cru que j'y arriverais jamais à faire l'amour avec toi. Mais il a pris son temps, il était patient, sympa.
Mais c'était toi qui voulais attendre?
Ouais, c'était moi. Je me voyais pas me mettre nu devant un type qui me touche même les seins, c'était impensable. Rien que l'idée, c'était l'horreur, quoi. Rien que l'idée me choquait. Qu'on touche mon corps, c'était impensable. Et puis les copines en parlaient. Et puis ma mère me disait tellement qu'il n'y avait pas de plaisir que j'ai fini par me dire qu'il y avait beaucoup de plaisir à le faire. Je me rappelle que mon frère m'avait dit, t'as pas intérêt à être des puces avant moi. C'est d'abord les garçons qui vont la sexualité, pas toi. Et je lui ai pas demandé son avis. Avec Fabrice, ça a été très bien. Mon Dieu. Non, ça s'est très bien passé le premier. Et après, c'était sympa. Mais je suis tombée sur un mec sympa quand même, mais délicat. J'ai eu de la chance de ce point de vue-là. Il était très délicat. À chaque fois, il me dit, tu veux bien ou tu veux pas, ou enfin... Ça se faisait bien, quoi. Il était très délicat. Après, j'ai une sexualité normale. Lui, il avait été nommé à Nice, travaillé à Nice, et moi, j'étais à Toulouse. Et j'étais étudiante, je ne me suis pas privée. Mais la pilule, ça a été une libération totale. Ah, je ne me suis pas privée de la pilule. Ni avec Fabrice, ni après. Ah, je ne me suis pas... Quand j'avais envie, j'allais demander. Une fois, je me rappelle, j'allais à la piscine, j'étais très sportive, j'allais à la piscine. Et le maître nageur était beau comme un dieu grec. Mon Dieu, sauf qu'il était blond aux yeux bleus. Et je lui dis, tu me plais. Eh bien, je l'ai eu dans mon lit. Je ne me gênais pas. J'ai eu une sexualité normale, je dirais. Vu que j'étais pas mariée, c'était les rencontres au gré des rencontres, quoi. Mais je ne me suis jamais gênée.
Fabienne est libre. Quel que soit le cadre, quelles que soient les contraintes qui lui sont imposées, elle apprend par elle-même et s'affranchit des obstacles. D'une épreuve à l'autre, son caractère se dessine et on découvre une femme au sacré tempérament.
Bon, mais j'ai eu mon bac et je suis allée en fac. Après le bac, je suis allée en hypocagne et en cagne. J'ai fait 3 ans de lettres sup. Mais je ne pouvais pas être reçue à normal sup parce que j'avais trop de difficultés à la maison à régler. Parce que mon père voulait prendre le relais après, puisque j'étais soi-disant facile. Mais puisque je faisais l'amour, pourquoi pas avec lui, comme il me disait. Et il m'a dit, tu m'aimes, et j'ai dit, je t'aime, puisque tu es mon père. Et moi aussi, je t'aime. Alors pourquoi on ne fait pas l'amour? Parce que tu es mon père. Et là, je me suis évanouie. Mais oui. Heureusement que j'avais vu Fabrice avant, qui m'avait mis les choses bien, et que je savais que l'interdit, ça existait quand même. Je ne l'ai dit à personne. Mais j'ai très mal vécu. Il m'a fallu toute la vie pour m'en débarrasser de ça. Il y a eu des attouchements quand même. Et de ma mère aussi. Et de ma tante aussi. Tout ça, c'était glauque dans cette famille. Ça se faisait. Ce n'était pas interdit et c'était autorisé. Les femmes étaient perverties par les guerres. Et après, tout était permis possible. Sauf le plaisir. Ça, c'était l'interdit majeur. Le plaisir dans la sexualité. Après mes études de lettres, mes parents m'ont dit, comme j'arrivais pas à intégrer un normal sup, à cause de mon père qui me perturbait beaucoup, là, j'ai dit, je vais être prof d'espagnol. Parce que j'avais fait mes études d'espagnol parallèlement à normal sup aux classes prépa. J'ai eu ma maîtrise, donc j'ai voulu passer le CAPES. Et entre-temps, mes parents m'avaient expédié à Madrid et à Salamanque faire mes études quand même, parce que Toulouse, c'était pas assez. Donc j'ai fait de l'orthophonie. Et là, ça a été une époque assez sympa parce que j'ai rencontré un mec très sympa qui payait ses études en étant routier international. Mon Dieu, un mec sympa, un bon mec. Pouf, je me suis accaparé de suite. Et alors, mes études d'orthophonie, je dois dire qu'elles ont un peu volé parce qu'il était sur le Moyen-Orient, il était transporté sur le Moyen-Orient. Et je l'ai suivi partout au Moyen-Orient. Mais j'ai visité toute la Turquie, la Syrie, la Jordanie, c'était génial. Et une fois, j'ai cru que je pourrais passer en Arabie Saoudite comme ça, avec mon passeport. Mais il fallait être marié et un visa. Je passe dans une famille jordanienne de la frontière m'a prise chez elle. Et là, j'ai eu la chance, bon, j'avais fait 3 ans d'arabe à la fac dans le cadre de mes études d'espagnol, donc je me débrouillais un peu en arabe. Et lui avait travaillé en Allemagne dans mon salon d'arrivée à communiquer. Il m'a dit, tu vas passer ici le temps que ton copain revienne te chercher, mais tu te convertis de suite à l'islam, c'était le ramadan. Sinon, je te coupe la gorge. Je dis, t'inquiète pas, c'est déjà fait. Alors là, moi, dans ces cas-là, je suis d'une lâcheté totale, je trahis tout pour sauver ma peau. Je dis, Jésus, pardonne-moi, mais là, c'est le cas de force majeure. Donc je me suis converti à l'islam, je faisais mes 5 prières par jour vers la Mecque. Je récitais le Coran, j'ai appris le Coran. En arabe, je peux encore te dire les premiers versets. Bismillahirrahmanirrahim. As-salamu alaykum. Et j'étais cantonné dans le harem avec les femmes, dans le gynécée. Et je faisais la cuisine. Et surtout, j'ai appris l'arabe. Il y avait des livres d'arabe. Il y avait une petite de 10 ans, un amour de gamine, qui m'apprenait l'arabe et qui se tordait de rire à me faire parler arabe. Et ce que je ne savais pas, c'est que mon compagnon avait été retardé en Arabie Saoudite, il avait des pépins et son camion, il était retenu là-bas. Alors, là où j'ai commencé à avoir la trouille, c'est qu'une fois, une femme est arrivée avec un gamin, un garçon dans les bras, un petit garçon dans les bras, et m'a engueulé. Alors j'ai compris ce qui m'arrivait. En fait, son mari m'a voulu pour deuxième épouse. Et elle arrivait avec le fils pour dire qu'elle était la cadine, qu'elle avait déjà donné le fils et qu'elle était la première épouse et qu'elle n'en voulait pas une deuxième. Là, je me suis dit, ma vie, tu commences à être en danger là, parce qu'il va me vendre, il voulait me vendre. Alors, j'avais commencé à échafauder un plan pour m'échapper de la maison, rejoindre la frontière et prendre le premier routier qui passait occidental et rejoindre l'Europe. Heureusement, mon copain est arrivé à ce moment-là, 2 jours après, heureusement. Je vais commencer à envisager de m'échapper. J'ai toujours gardé mon passeport sur moi. Après, il a voulu se marier. Et moi, j'ai pas voulu me marier.
Pourquoi?
Parce que je sentais pas que c'était avec celui-là, encore. C'était pas encore l'homme de ma vie. J'ai dit non, je veux pas. Et d'ailleurs, je veux plus rester avec toi. Bon, il était mal. Et j'ai rompu, on s'est séparés. J'ai vraiment eu du mal à me lancer dans le mariage. La maternité, j'y suis pas encore allée, mais je désespère pas. Maintenant qu'on fait des gosses à n'importe quel âge. Non, j'ai pas fini d'être guérie de ça encore, donc je peux. Même si je pouvais, je pourrais pas encore. Parce qu'après, bon, qu'est-ce qui m'est arrivé? Alors, là, dans le bled, là où j'étais à mon sac, évidemment, je trouvais personne. Alors, je me suis inscrite dans une agence matrimoniale. Et ça, c'était gratiné. Mon Dieu! Plus de cons que là, tu meurs. Ils étaient tous tarés. Mais j'ai appelé une agence à Paris. Qui m'avait coûté assez cher d'ailleurs. Une fois, il y a mon Dieu quand j'y repense à celui-là. Comme j'étais professeur libéral, ils avaient décidé à l'agence que j'étais fasciste de droite, extrême droite. Alors ils me présentaient des nazis, en fait des fascistes, quoi, des types d'extrême droite. Une fois, il y en a qui m'a donné rendez-vous à Paris, j'y vais, et je vois le mec là. Qui m'attendait avec son imprimante sur le bras. Et je vais vers lui et je me présente. Il me dit, et comment vous avez su que c'était moi? Le mec, il lui manquait que la petite moustache. Je l'ai senti. Et il trouvait que je faisais l'affaire parce que j'étais alsacienne. Et que pour lui, la blondeur, c'était un critère. Ah, mon Dieu! Et puis j'ai téléphoné à l'agence, j'ai dit, vous arrêtez le feu, vous avez que des cons. Et puis un jour, je passais dans une rue où il y avait le Club Med. Je suis entrée dans l'officine du Club Med. Et je dis, voilà, je veux aller à l'autre bout du monde pour me balader, j'en ai marre de la famille et du boulot. Alors là, le Club Med, c'est pareil, c'est comme les agences matrimoniales. Nous avons une place aux Bahamas. Je veux aux Bahamas. Il n'y a pas d'Américains. Alors ça, parce que les Nord-Américains, il faut se les taper, ils sont lourdasses. Et je ne voulais pas non plus une rencontre tous les soirs. Et là, je rencontre un célibataire divorcé qui avait la garde de ses fils. Et me voilà, avec celui-là.
Donc là, t'es avec quel âge ?
40 ans. J'avais 40 ans.
Et vous vous êtes mariés ?
Et celui-là, j'aurais pu l'épouser 3 jours après l'avoir rencontré. Les autres, j'avais pas voulu. Et pourquoi ? Parce que c'était clair que c'était celui-là, malgré toutes les difficultés qui m'attendaient.
Pourquoi ?
Parce que ça devait être comme ça. Tu as l'intuition de ton destin quand même. Tu l'as pas, toi ? Pas trop ?
Si, je pense.
Mais si tu l'as. Mais si tu l'as. J'ai su que je devais épouser celui-là. Et pourtant, il sortait de son deuxième divorce. J'aurais dû me mettre un peu méfiante, mais non. Allez, fonce, ma belle, c'est celui-là et pas un autre. Comme on était français, nous avons mis à la même table, avec son fils dont il avait la garde, qui était un adolescent un peu merdique, mais bon, c'est pas ça qui m'aurait arrêté. Et on n'a pas les français, voilà. Et on s'est retrouvés à danser le soir, et ils m'ont offert un coca. Alors, comme dit Christophe, avec qui je m'entends très bien, eh ben dis donc, papa, tu l'avais avec un coca, il t'en a pas fallu beaucoup. Lui, il travaille ici, et moi là-bas, dans le Tarn-et-Garonne. Et puis, on a fini par se marier, au bout de 2 ans, de va-et-vient. Quand on s'est marié, il m'a dit, la fille est la faiblesse de l'homme. Quand un homme est en faiblesse, il a une fille. Lui, il n'a eu que 2 garçons. Il dit, mais c'est parce que les filles ne veulent pas s'incarner dans cette famille. Tiens, qu'est-ce que tu crois ? Et j'ai essayé d'avoir des enfants désespérément, j'ai pas pu. J'ai tout essayé, je suis allée à San Francisco faire des filles de la nouvelle méthode. Et ça n'a pas marché. On m'a implanté des embryons de plusieurs semaines, aucun n'est resté accroché. Je ne pouvais pas les vouloir. Et pourtant, je le formule, je dis, je veux un enfant. Mais je ne pouvais pas le vouloir vraiment, puisque ça ne tenait pas. Les enfants partaient. Alors là, on a essayé d'adopter un enfant. On est allé à la DAS, tout ça. Et à la DAS, ils étaient salauds de chez salauds. Ils nous ont dit, vous pouvez adopter tout de suite un enfant africain qui a le sida. Et j'ai dit, ça, c'est sympa. Le temps de l'aimer, on va l'enterrer, c'est ça. Vous êtes des salopards. Alors, Alain qui me tapait dans les tibias, pourquoi je ne leur parle pas comme ça ? Parce que ça manque de diplomatie quand on voit plus quelque chose. Bon, ça n'a pas marché, évidemment. Plutôt qu'à 40 ans, j'étais trop vieille. Sauf pour un enfant africain qui avait le sida, là, j'étais bien. On a essayé aux États-Unis une mère porteuse. Et puis à chaque coup de téléphone, ça nous coûtait de plus en plus cher. On a vu qu'on allait laisser la peau des fesses à vie, quoi. J'ai dit, écoute, on arrête. Puisque je ne peux pas les avoir, je ne les ai pas. C'est pas grave. On fait autre chose à la place. Et puis ça s'est arrêté là, le désir d'enfant. Patriarcat pourrissant, il y en a marre. Il ne faut pas te décourager. Il ne faut pas vous décourager, les filles, parce que vraiment, contrairement aux apparences, il y a tout à faire encore. Mmh. Vraiment tout. Tu sais, ma mère, à mon âge, elle manifestait derrière Gisèle Halimi, ah bah les hommes, vu la liberté. Elle était un petit mec, ma mère. Globalement, oui. Ma mère me disait toujours, il te faut un métier, tu seras indépendante. Ne dépends jamais d'un homme. Mais au bout de quelques années, j'ai eu un double AVC. Et là, j'étais dépendante. Et c'est là que moi, qu'on vit encore dans un patriarcat total. Un patriarcat dégueulasse, d'ailleurs. Parce que là, c'est qu'il m'envoyait un papier me disant vous avez droit à une pension pour handicapés. Le montant de votre pension s'élève à 0,000 point. Et vous n'aurez jamais le droit de retravailler. Voilà ce que j'ai eu de la sécu. Et là, on a téléphoné. La réponse était, votre mari gagne bien sa vie, vous n'avez pas besoin d'une pension. Si ce n'est pas du patriarcat, ça c'est quoi? C'est-à-dire, je suis devenue dépendante de mon mari du jour au lendemain. J'ai eu beaucoup de chance, je dirais que j'ai eu de la chance. Parce que comme je voyageais en autostop n'importe où, au pays, parce que je faisais du stop quand je voulais aller danser à Saint-Jean-de-Luz, c'était de la folie. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Et puis avec mon père qui me tournait autour, tu crois que j'ai pas eu de chance? Il aurait pas fallu, mais bon. J'ai eu de la chance, ça s'est arrêté là. Avec des parents pervers, une tante perverse, j'ai de la chance quand même de ne pas tomber dans cette soupire-là. J'ai quand même été obligée de faire une psychothérapie longue. Enfin, longue de quelques années quand même.
Je pense que j'ai quand même payé le prix de tout ça.
Écoutez Fabienne, c'est la découverte d'une parole libre, d'une vie différente de celle des autres femmes de sa génération. Une vie dans laquelle la sexualité a d'abord été niée, puis pleinement assumée. Fabienne a su écouter ses désirs et se laisser porter par ses envies. Son histoire nous a beaucoup touchés et surtout véritablement enrichis. Nous espérons que vous aussi.
Entre le catéchisme et le déshonneur d'être enceinte, alors ça c'était l'horreur. Donner la vie c'était l'horreur.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux à @mamiepodcast et par email à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.